Il est 14h02, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Plus que jamais, c'est un soleil trompeur parce qu'on a seulement, oui, seulement 10 degrés présentement. À l'extérieur, dans la région de Québec, de peine et de misère, on va peut-être se rendre à 14 cet après-midi. C'est un risque de gel au sol pour ce soir et cette nuit avec un ciel dégagé, un minimum entre 0 et 1 degré seulement. Demain, du soleil, quelques nuages en après-midi, quelques degrés de pluie également, maximum de 18 degrés. Samedi, alternance soleil-nuage avec un maximum de 20 degrés. Dimanche, on prévoit de la pluie avec un maximum de 15. Pour nous rejoindre en studio par texto, c'est rapide, au 418-971-1021. Au téléphone, old school baby, 418-780-1021. Vous nous écrivez directement sur le Messenger de Boulevard 102.1. Et si jamais vous voulez nous sortir de votre voiture, bien, utilisez l'application Boulevard, utilisez la web radio du blvd.fm. Et si vous arrivez près d'un haut-parleur intelligent, vous ne le mêlerez pas en lui demandant d'écouter Boulevard 102.1, BLVD 102.1. Et pour faire du rattrapage en visuel, ben, je vous rappelle qu'on a également une chaîne YouTube où on partage entrevues, performances, extraits de conversations, pit stop, caucus, open mic et également tous les podcasts qui ont été faits dans l'environnement Boulevard 102.1 dans les dernières années. Il y en a plusieurs, vous serez surpris. Et ça, ben, pour la plupart, c'est du matériel intemporel que vous pouvez amener avec vous autres ou ça vous tente, qui sont également disponibles, les podcasts, sur les principaux services de streaming. On est jeudi, on est le 21 mai. Gravel dans le retour s'installe jusqu'à 18h. Dans le fond, on est l'avant-match étiré de la demi-finale entre le Canadien et les Hurricanes de la Caroline. Mon nom est Denis Gravel. Véro, bonjour.
Bonjour.
Audrey, bonjour.
Hello.
Ça a commencé ce matin. Et ça va se poursuivre dans les prochains jours.
Le fret.
Ramassez vos indices. Ça peut mettre de la chaleur dans votre cœur. Parce qu'on a une paire de billets pour le match entre le Canadien et les Hurricanes. Au Centre Bell, c'est le match numéro 4, mercredi prochain. C'est une collaboration Boulevard 102.1 et nos partenaires éternels des Trois Chaloux de la grande région de Québec qui ont plongé dans l'aventure. Trois fois par jour, vous allez avoir des indices. Vous avez besoin d'un indice, mais vous pouvez vous inscrire trois fois par jour si vous trouvez les trois indices. BLVD.fm, c'est le point de rencontre, la section concours. On aura un indice à vous donner cet après-midi. Sur les informations que j'ai présentement, c'est marqué 16h. Moi, je vous dirais, entre 15h30 et 16h45, vraisemblablement, il y aura un indice de partager. Fait qu'essayez de ne pas le rater. Il y en a trois par jour. Vous en avez un dans le Pit Stop. Vous en avez un dans l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Et également un dans le retour. Et la fin de semaine, nous autres, on n'arrête pas. Hein? On chôme pas. Vous aurez également des indices dans le Rock and Chill en fin de semaine à compter de 8h, dans le Boulevard du Rock à compter de 10h et dans les Colosses du Rock à compter de 15h. Un gros merci au Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts et encore une fois demain, on aura des toutes nouvelles suggestions. Retour de classique bière anniversaire et un petit peu de drink prêt à boire. On va vraiment en avoir pour tous les goûts dans la chronique de demain. Je suis passé tantôt au Chaloux. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant au Chaloux de façon quasi non-stop? On remplit la zone SAQ. Hey, sérieux, ça a l'air d'être un méchant succès, là, cette zone-là. Je ne sais pas si ça fonctionne partout. Mais je peux vous garantir qu'au Chaloux, c'est l'enfer comment ça roule. Je pense que les gens avaient besoin de ça. Ça a de l'air niaiseux. Vous allez me dire, ben oui, mais il y a des SAQ. Ben oui, mais des fois, tu as le goût de tout prendre tes affaires en même place.
C'est exactement ça, la grande nuance.
Je pense qu'on est rendu à une ère où on doit se simplifier la vie. Et on vous simplifie la vie si jamais vous voulez aller voir le Canadien de Montréal. On se trompe pas, là, je veux dire, c'est un prix qui dépasse le millier de dollars. Et en passant, on va vous remettre Ben, pas vous remettre la paire de billets, là, mais je pense qu'on va vous appeler. Hein.
Faudrait.
Ouais, je pense qu'on va vous appeler. C'est mardi, dans le retour, qu'on va appeler notre gagnant, notre gagnante, parmi tous ceux qui se seront inscrits. Donc, si vous vous inscrivez souvent, vous avez plus de chances de gagner et vous aurez un indice dans le courant de l'après-midi, aux environs très, très, très approximatifs de 16 heures. C'est pas pire, ça?
Parfait.
Le Canadien commence contre la Caroline ce soir. Le match est à 20 heures. Vous avez le rassemblement au centre Vidéotron. Vous avez l'Agora qui présente le match gratuitement. On vous rappelle que pour le match numéro 2, samedi, arrivé tôt, c'est Sarah Dufour qui donne un spectacle complet juste avant le match. Fait qu'elle commence à 17h30. Le match commence à 19h samedi et non pas à 20h. Fait qu'à partir de ce moment-là, l'Agora peut être une très belle alternative, d'autant plus que c'est gratuit. Il y aura des concessions d'ouvertes pour accommoder tout le monde. Mais étant donné qu'il y a un événement juste avant le match samedi, on vous recommande d'arriver un petit peu plus tôt. Beaucoup de choses à jaser aujourd'hui. On va renouer avec Dom Gauthier. Dom Gauthier qui réagit dans un texte qu'il a publié sur Radio-Canada, un peu à l'histoire que je vous racontais hier sur la Coupe du Monde.
Les coûts de la Coupe du Monde de la FIFA qui va être présentée dans deux villes canadiennes, ça revient à une fortune par match.
Hein? C'est 80 millions par game, de mémoire. Ça, 82 millions de dollars par game. Mm-hmm. T'as la moitié de cet argent-là qui est financé par les provinces et les villes de Vancouver et de Toronto où il y aura des matchs. Mais l'autre moitié, c'est le gouvernement canadien. Puis nous autres, de notre côté, on se retrouve à payer une partie de la facture, même si dans la province de Québec, on n'aura pas vraiment de grandes retombées. Puis la réflexion de Dom Gauthier, c'est un peu ça, de dire... C'est le fun à être dans le show, mais quand le show est parti, là, qu'est-ce qui reste de façon permanente? Puis des fois, tu peux faire ça comme faut, mais des fois, c'est pas toi qui as le gros bout du bâton. Puis dans le cas de la FIFA, le gros bout du bâton, ça semble être la FIFA. Dans les présentations olympiques, des fois, on le fait bien. Des fois, on le fait moins bien. Fait que Dom Gauthier va pouvoir nous parler de ça. On va jaser avec Max, évidemment, parce que c'est le début de la demi-finale ce soir. La plupart des observateurs qui mettent les Hurricanes gagnants contre le Canadien. Et pourtant, hein, les favoris n'ont pas toujours le dernier mot. Qui a gagné hier soir? C'est les Knights de Vegas. Par la marque de 4-2, menait 2-0 à un certain moment donné, même 3-0.
J'ai vu le nombre de tirs au but de la part de l'Avalanche.
Oui.
38 tirs au but.
Ouais, c'est ça que ça fait des goalers quand ça goale sa tête et on se comptera pas d'histoire. Là. Ça peut être la clé aussi dans la demi-finale de l'Est entre les Hurricanes et le Canadien. On va se parler des derniers changements, s'il y en a, du côté des deux alignements. Et je vous rappelle, pour les gens qui se souviennent qu'il existe, que Jesperi Kotkaniemi ne prend pas part au match de ce soir et il n'est pas blessé. C'est une méchante drop, hein? Veux pas. 14h10. Hey, j'ai réussi à patienter 10 minutes avant de vous parler d'angine de poitrine aujourd'hui, ce qui est quand même pas si mal.
J'étais sûr que ça allait s'en venir à un moment donné ou à un autre.
Ben là, ils tombent tous un par un, hein? Vous le savez, après Jack White, après Dave Grohl des Foo Fighters, après Mike Portnoy de Dream Theater, après Josh Homme de Queens of the Stone Age, on a un nouveau fan du duo du Saguenay-Lac-Saint-Jean déguisé dans des boîtes de carton. Sébastien! Ben oui! Ulrich de poitrine, ça existe! Ah, c'est vrai, il y a Joe Elliott de Def Leppard aussi qui a chanté les louanges d'Angine de poitrine. Et Lars Ulrich, batteur emblématique de Metallica, a assisté à un concert d'Angine de poitrine hier soir du côté de la France à Amiens. Et Lars Ulrich s'est pointé à l'improviste en compagnie de son épouse à la Lune des Pirates. Waouh, quel nom de salle incroyable! Une petite salle de 250 places où se tenait le spectacle. Le propriétaire de la salle qui dit que la visite de Lars Ulrich n'était pas prévue. Il n'était pas sur la guest list, il s'est juste pointé là. Ça a l'air d'être son genre là, de se pointer puis faire ce qu'on va appeler une entrée, là.
Ah, mais il avait l'air discret, par exemple, de ce que j'ai compris dans l'article puis avec les images qu'on a vues.
Il avait le goût de triper puis il avait pas le goût de se faire déranger.
Ça doit tellement être poche d'être une face qui est reconnue partout puis de pas avoir la paix pour justement aller vivre un petit trip de même dans une petite salle.
Ben c'est parce que c'est un gars qui est très démonstratif dans sa façon, c'est ça. Fait que c'est dur pour lui de passer inaperçu parce qu'à partir du moment où il se met à triper, c'est Lars Ulrich, là. Vous l'imaginez monter sur son drum,
Steve
là.
Steve de Limoilou.
Avec
là.
Le genou en avant, là, puis mâcher sa gomme avec le menton d'un zère.
C'est
là.
Sûr, ça finit en article.
Ben, c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a plusieurs internautes qui ont commencé à le filmer de loin, puis il y a un journaliste qui était là pour faire la critique du concert de Angine de Poitrine. Thomas Divart, du journal Le Courrier Picard, qui est allé échanger quelques mots avec Lars Ulrich. Il lui a demandé « Es-tu vraiment la personne qu'on pense que t'es? » Il a répondu par l'affirmative, juste en hochant de la tête. Et après ça, il a demandé « Qu'est-ce que tu fais à Amiens ce soir? » Puis la réponse a été quand même assez brève. Il dit « Ben, la même chose que toi. »
Je vois que ça ne tentait pas. Puis je
oui, ça paraît!
Je peux le comprendre.
Ouais. Quand même, mais je l'ai trouvé classe
oui,
dans
oui,
sa façon de balayer du revers de la main parce qu'il dit, je suis venu ici pour regarder le show. Écoute, on se parle après le show, OK? Il a dit ça aux journalistes. Puis ça a de l'air qu'il a fait un petit peu de air drumming, il a trippé sa
correct.
Vie. Un moment donné, on y a trouvé une loge où il est allé se cacher avec sa femme. Puis je pense qu'il y avait.
C'est un journaliste qui n'arrêtait pas de vouloir y parler.
Je pense qu'il y avait deux de chômés également qui étaient là. Puis ils sont restés pendant toute la prestation du duo saguenéen, ce qui est quand même vraiment hot. Et à la fin, le journaliste a essayé de réaccoster Lars Ulrich qui lui a dit. No disrespect, man, but no. Fait qu'il a pris 4 pics de guitare, il a donné, puis il est parti.
Il voulait pas donner notre entrevue, puis c'est correct. Et il était là pour voir un show.
Parmi les pics de guitare, et ça explique peut-être la présence de Lars Ulrich dans la petite salle de spectacle, c'est qu'il y avait un pic de spectacle du spectacle la veille.
Fait qu'ils sont en Europe, dans le fond?
Dans le fond, il était en Pologne, dans la municipalité de Charleshall, Metallica. Première fois que j'entends ce nom-là de ma vie. Metallica qui est présentement...
Ils sont en Allemagne.
Oui, en tournée européenne. Tout comme Angine de Poitrine, ça fait drôle à dire. Mais Lars Ulrich a fait le détour, les copains.
C'est carrément le détour, là. C'est carrément ça.
C'est hot. Mais moi, ce qu'on me raconte sur Lars Ulrich, tu sais, tu disais, c'est un tripeux. C'est un gars qui fait ça souvent.
Ben oui. Puis probablement que dans d'autres salles, il se fait même pas spotter parce qu'elles sont plus grandes. Mm-hmm. Peut-être, tu sais, le nombre de personnalités qui essaient d'avoir des billets de faveur, pop! Pour avoir des faveurs, juste pour avoir le stoût de paix.
Ouais.
De ne pas être observé tout le long du show. Là.
De la façon que je comprends, c'est que Lars Ulrich fait appeler quelqu'un de l'équipe de Metallica, qui est probablement un de ses chums, puis qui l'accompagne. Puis lui, il appelle, puis il dit, écoute, nous autres, on viendrait voir le show, on est trois ou on est quatre, on est avec Lars Ulrich, t'as-tu une place où on peut s'installer tranquille, pas se faire déranger, tu sais? Fait que ça marche des fois ça marche pas. C'est un moment marquant du documentaire Some Kind of Monster pendant que James Hetfield est en réhabilitation puis que les gars savent pas si Metallica va survivre ou si Metallica est officiellement mort et enterré. Pendant cette période morte-là, t'as Lars Ulrich qui part avec le producteur de l'album de l'époque, Bob Rock, puis les deux s'en vont au spectacle de Jason Newsted. Jason Newsted, c'est le bassiste de Metallica qui a quitté le groupe. Là, on sait un peu plus pourquoi Jason Newsted avait certains problèmes de consommation à l'époque.
Après son départ, il a brièvement joint les rangs de Voivode.
Oui, il a brièvement joint les rangs de Voivode. Ça, c'est un petit peu plus tard. Il a joué avec Ozzy Osbourne aussi. Mais il y avait son band à lui. Puis dans Metallica, ça a l'air que quand tu joues pour Metallica, tu n'as pas le droit de jouer pour d'autres bands. Puis lui, ben ça a causé la chicane avec les autres membres du groupe. Fait que juste avant que Metallica explose, Jason Newsted avait réussi à se sauver. Et Lars Ulrich est sur la brosse avec Bob Rock, puis ils se disent « Ouais, nous autres, on jouera peut-être plus jamais. » Puis lui, ben il est en train de nous faire un petit spectacle dans sa salle. C'est le seul qui fait de la musique. Et je pense qu'on a perdu notre gageure. Et je pense que ça va pas bien pantoute, mon affaire. En espérant que Lars Ulrich ait eu plus de plaisir au show d'Angine de Poitrine hier.
C'est quand même drôle.
Ben c'est incroyable. Tu sais, le buzz Arcade Fire, au départ, c'était endossé par combien d'artistes, Véro? Un, David Bowie?
Oui, mais quand même, c'est parce qu'on le voyait moins, c'était moins médias sociaux.
T'sais, un moment donné, t'as eu, je pense, le chanteur de Coldplay. On le faisait, mais ça pouvait pas avoir la même ampleur parce que les réseaux sociaux avaient pas la même ampleur. Puis tu repenses à des affaires un peu weird qui sont arrivées au fil des années. Dans l'histoire du rock, il y a deux semaines, je vous parlais des gars de Led Zeppelin qui est allé voir un show d'Elvis à Vegas. T'sais. Imaginons-nous que ça arrive dans un univers où les réseaux sociaux existent et sont omniprésents. Le monde vire fou, là. Il y a un concert historique qui se passe du côté de Chicago, des bluesmen. Body Guy est là de mémoire, puis il y en a quelques autres dans un petit club rempli de boucanes de Chicago. On est à la fin des années 70. Puis, je pense que c'est Body Guy qui reçoit du monde de ses chum bluesmen à tous les lundis soirs. Et sans s'annoncer, ben, à un moment donné, t'as les gars des Rolling Stones qui arrivent. Ils sont tous là avec leur blonde. Ils s'installent avec leur bouteille. Je pense que Keith Richards était rentré avec sa bouteille de Jack. Installe ça sur la table. Puis, veut pas, les Stones arrivent. Ça fait une entrée remarquée. Au début, au début, les Stones sont venus pour voir le show parce que les Stones, c'est un groupe de blues à la base. C'était des maniaques de blues. Mick Jagger et Keith Richards ont connecté sur leur amour du blues. Fait que ce soir-là, les Stones s'installent, puis à un moment donné, ben les boys sur scène, « Hey, ça vous tente-tu? Coupe de tonnes? Des instruments? Montez, venez jammer avec nous autres, si ça vous tente. » Et les Stones sont montés sur scène. D'abord Mick Jagger, puis après ça, Keith Richards est monté, Ron Wood est monté, puis c'est devenu un grand jam de célébration de la musique blues avec des vieux bluesmen puis les Rolling Stones.
C'est pareil.
Et ça existe en concert en passant parce que les caméras filmaient ce soir-là. Donc, on voit les tables vides à l'avant-plan qui étaient gardées là pour les Stones. On voit les Stones arriver avec leur entourage puis on voit qu'à un moment donné, ils se font demander de monter sur scène pour venir chanter avec les boys. Ça donne des collaborations vraiment spéciales. Ce soir-là, on avait la chance d'avoir des caméras, mais imaginez-vous que ça, des affaires de même, ça arrive à une époque où les réseaux sociaux sont omniprésents. Le lendemain, là, on est beurré d'images, puis d'affaires, puis d'histoires.
Probablement pas envie à ces gens-là, justement, de se pointer dans des concerts. Puis je trouve ça triste parce que quand t'es musicien à la base, parce que t'es mélomane, tu tripes sur la musique, t'aimes aller voir des concerts, j'imagine, t'aimes consommer la musique. Mm-hmm. Puis là, ben, tu peux plus le faire parce que tu viens avec une popularité puis une attention.
Il y a des générations plus à l'aise. C'est à Coachella qu'il y avait Bieber à sa deuxième fin de semaine qui était sur scène, puis il y avait Billie Eilish qui est une fan finie depuis sa tendre enfance. Ben, c'est exactement ça. Il est allé la chercher puis il a trippé sa vie. Fait qu'il y a eu un gros buzz parce que c'est Billie Eilish. Sauf que maintenant, tu sais, ce que tu racontes, c'était unique, c'est arrivé une fois. Là, on dirait que ces temps-ci, il y en a trop. T'es rendu perdu. Mm-hmm. Ah, un tel est allé sur scène avec un tel. On dirait qu'il faut que ce soit des rencontres de genre. On en avait parlé quand c'était Offspring avec le petit haut qu'on aime bien. Là.
Ed Sheeran.
Avec Ed Sheeran, quand t'étais monté sur scène. C'est comme deux univers qui sont pas censés se rencontrer. Ouais. Ça, c'est le fun. Mais sinon, des collabs, c'est rendu qu'il y en a tellement.
C'est pas impressionnant. C'est plus impressionnant.
Puis, tu sais, les artistes prendraient plus une chance de se présenter chaud d'ail un soir où des caméras tournent. Tu sais, c'est des événements qu'on voit plus parce que maintenant, les artistes sont conditionnés à ne plus faire de faux pas. Les derniers, ça a probablement été Oasis, là, qui était capable d'être turbulent un soir de gala ou whatever. Mais à l'époque, hey, je me reprends, hein, le show dont je vous parle avec les Stones, c'est Body Guy, c'est Muddy Waters, qui est l'hôte du club du côté de Chicago. Et ça se déroule en 1981. Well, you know, whenever I'm lonely. Bring my woman sitting there by my side. Should be no law. Le Mick Jagger est en train de monter sur scène.
People that wanna smoke on the door. Come here, Mick.
Come here, Mick. Et t'as Mick.
Should be no law. Get people that want to smoke on the door.
C'est-tu bon du gros blues sale?
Non.
Well, you're not good for your head. And relax your body, don't you know? What?
Give me a reefer when I want to get high.
That's it, that's it.
Hey, t'es là, tu dessoules vite, hein? Fait que pour ceux qui se demandent, non, Lars Ulrich n'est pas allé jamais avec angine de poitrine. C'est pas arrivé.
Ah,
you
know, whatever, I'm lonely.
Mais ça, c'est du bonbon.
Ah, c'est débile.
Set my woman right down.
Les Rolling Stones et Muddy Waters, live in Chicago. Le nom de la salle, c'est Checkboard Lounge. Moi, c'est quelque chose que j'ai en concert DVD. Vous avez l'audio qui est disponible aussi sur les services de streaming. Ça commence comme un show de blues bien standard. Puis à un moment donné, ben, les gars des Stones embarquent. Puis ils font un paquet de classiques du blues. Et c'est quand Mick Jagger chante le blues que tu vois à quel point il y a ça dans les veines. C'est un showman, mais c'est un gars de blues à la base. Quand tu chantes ces tunes-là, c'est pas gênant là, d'avoir toutes les blacks autour. Là. T'as pas de l'air du petit blanc qui essaye. T'as de l'air de fitter dans l'orchestre. Non, là, hey, 14h23, assez radoté musicalement. On a plein d'affaires à vous partager aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'on a un indice qui pourrait vous amener direct dans le Centre Bell pour le match numéro 4, mercredi soir. Soyez attentifs.
Gravel.
Il est 2h30, 418-971-1021 pour nous rejoindre s'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs. On a seulement 11 degrés à Québec, malgré le soleil. Hey, je vous disais que c'était compliqué de négocier avec la Ligue nationale pour faire des présentations spéciales des matchs du Canadien. On est chanceux à Québec.
On n'a plus d'équipe.
Non, mais c'est parce que la gang du Centre Vidéotron a réussi à négocier avec TVA Sport d'un bord, vraisemblablement, avec les gens de la LNH, possiblement les gens du Canadien de Montréal aussi. Puis on a trouvé une façon de faire qui fait en sorte que maintenant, ben, on a des présentations qui sont possibles. Puis c'est bien tant mieux. On a celle du Centre Vidéotron, on a celle du côté de l'Agora. Les profits, la vente de billets vont à des bonnes œuvres du côté du Centre Vidéotron.
En fait, chaque fois qu'il y a un lieu où on diffuse un match puis qu'il y a un montant qui est demandé, l'argent doit aller à des œuvres caritatives.
On est chanceux parce qu'on apprend que du côté de Gatineau, on s'enlignait pour faire la même chose et on ne sait pas qui, mais probablement les sénateurs d'Ottawa ont mis leur veto ou ont empêché d'approuver le projet, ce qui fait en sorte que tout a foiré à la dernière minute. C'est Thomas Gerbais et Martin Comtois qui co-écrivent un texte qui est disponible sur le site de Radio-Canada. Donc, c'était samedi au centre Slush Poppy de Gatineau, l'aréna au meilleur nom de l'histoire de l'humanité. L'événement qui a été annulé à la dernière minute et selon les sources de Radio-Canada, c'est un enjeu de droits territoriaux exclusif réservé aux sénateurs d'Ottawa qui a empêché l'événement.
Les Sens qui sont en série contre quelle équipe, donc?
Contre personne, parce qu'ils se sont fait éliminer en 4 matchs contre les Hurricanes de la Caroline. Les organisateurs avaient l'autorisation de diffusion de la part de TVA Sport, qui est le diffuseur francophone exclusif de la Ligue nationale de hockey en série. Les billets avaient même été mis en vente cette semaine. On était dans le processus.
C'était le match de samedi passé, là. Ce que tu dis qu'il a été annulé dernière minute. Fait que c'est le match de samedi passé.
Non, absolument non? pas. Okay. C'est celui de ce samedi. Okay. On vendait des billets pour ce samedi et c'est ce matin par communiqué qu'on a diffusé l'information. Des validations additionnelles effectuées par les gestionnaires des droits de diffusion ont mené à un changement de position quant à la tenue de l'événement. Ça, c'est la phrase politique officielle. On devait faire ça sur écran géant dans l'aréna de 4000 places. C'était les grands feux du casino Lac Limé en collaboration avec le festival Outaouais en fête et Vision Multisport Outaouais. On fonctionnait de la même façon qu'à Québec. On vendait les billets 13$, puis toutes les sommes de profit étaient versées à des organismes communautaires. Moi, je trouve que c'est le fun parce que ça fait en sorte que tu as plein d'organismes à grandeur de la province
qui
peuvent profiter de la manne à cash qu'est le Canadien présentement. Les restos en profitent, génial. Les pubs en profitent, génial. La Ligue nationale se remplit les poches. Ça me fait chier, mais cool, cool. Mais si les organismes communautaires qui sont tous en besoin criant présentement à grandeur de la province, il y a trop d'itinérants, on n'a pas assez de stock, s'ils peuvent avoir une coupe de piastres à cause de ça,
ben,
tabarnouche.
Plus tard dans l'article, ils disent que ce ne serait pas les sénateurs. Il n'y aurait rien à voir avec ça, mais ça serait vraiment la LNH.
Ouais, tu vas peut-être un peu vite, par exemple, parce que les sénateurs disent qu'ils n'ont rien à voir avec ça, parce qu'ils ne veulent pas avoir de l'air fou sur la place publique. Mais de la façon que les journalistes de Radio-Canada nous l'expliquent, c'est que les sénateurs peuvent dire non. Les sénateurs doivent dire oui. Tu comprends-tu la différence?
Ouais, ouais, ouais.
Ils peuvent dire non, ils ont un droit de veto. Mais ils doivent dire oui. Si les sénateurs ne parlent pas, mettons que tu leur envoies un téléphone puis qu'ils ne répondent pas, ben tu ne peux pas tenir l'événement. Parce que si les sénateurs ne disent pas oui, fait que c'est une façon, de la façon qu'on se le fait décrire dans le texte de Radio-Canada, c'est une façon très couillonne de dire on ne veut pas que l'événement ait lieu, mais on ne veut pas se faire blâmer non plus. Fait que tu n'utilises pas ton droit de veto. Mais tu dis pas oui non plus. Et les journalistes ont demandé directement aux sénateurs s'ils acceptaient qu'une telle diffusion se fasse, et les sénateurs n'ont pas voulu répondre.
Ouais.
Si c'est pas toi, tu le dis. Parce que tu peux avoir un paquet de théories. C'est-tu RDS qui a une partie des droits qui a voulu s'en mêler? Je le dénoncerais tout autant. Moi, je pense pas. Je trouve que c'est de la
ridicule.
Perte de temps et de la perte d'énergie. Mais les sénateurs, en répondant comme ils répondent, ça donne l'impression que c'est eux autres qui ont fait en sorte que l'événement n'aura pas lieu. Là, ça commence à se promener à grandeur du Québec, puis tout le monde est en sacrement. Mon feeling, c'est que les sénateurs vont backer, puis ils vont envoyer un communiqué dans les prochaines heures pour dire qu'ils disent officiellement oui, puis que si l'événement ne se tient pas comme prévu, ben c'est pas de leur faute à eux autres. Et là, on partira à la chasse aux coupables supplémentaires. Mais c'est tellement compliqué, les droits de diffusion. Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais abonné à un forfait de la Ligue nationale
Dieu, oui.
de hockey.
Que tu payais à fort prix de mémoire.
Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Ça te donne droit à tous les matchs de hockey, sauf ceux de ta région.
Mm-hmm.
Fait que quand j'avais un match du Canadien, je peux pas le regarder.
Toutes les équipes, sauf la tienne.
J'ai le forfait NHL, mais je peux pas regarder le hockey du Canadien parce que les droits appartiennent à RDS, à TVA Sport. Donc, tant que je me tiens au Québec, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit non plus au match des sénateurs, pour les mêmes raisons. Fait que si mes Bruins jouent contre le Canadien, faut que j'aille d'un resto. Parce que mon forfait me donne pas la game. Forfait que je paye à fort prix. Si je m'en vais avec mon portable à Boston, je peux regarder les matchs du Canadien. Je peux plus regarder les matchs des Bruins. C'est niaisonnet. Je sais, je l'ai essayé. C'est cocombe de même.
C'est vraiment innocent.
Ouais, fait que c'est compliqué. C'est très compliqué. Puis moi, c'est une des raisons principales pour lesquelles je ne m'abonne plus aux forfaits de la Ligue nationale qui sont maintenant du côté de Sportsnet à un prix de fou, là, on va se le dire. Puis en plus de ça, maintenant, tu as le hockey sur Amazon Prime.
Oui, les lundis.
Fait que là, t'as pas le droit au match du Canadien. T'as pas le droit au match des sénateurs. Et t'as pas le droit au match du lundi qui est diffusé sur Amazon Prime. Fait que tout ça t'est enlevé dans le forfait. T'entends, hein? Mais quand on parle de diffusion comme ça, le fait qu'on ait été capable de s'entendre à Québec, le fait que dans d'autres régions, on ait été capable de faire la même chose, mais qu'à Gatineau, ça accroche, moi, ça me dit que c'est pas un réseau de télévision concurrent. Moi, ça me dit que c'est une équipe ou quelqu'un chez les dirigeants de l'équipe qui a été un petit peu malveillant et un petit peu malhonnête, puis qui s'est dit on va laisser ça traîner. Et le résultat, c'est qu'ils pourront pas tenir l'événement. C'est dégueu, hein?
C'est parce que ça fait mal à qui?
Les sénateurs n'existent plus au moment où on se parle. Tu sais, ils sont éliminés.
C'est ridicule.
Ça fait jaloux un peu.
Ah ouais.
Puis on le sait là, qu'il y a plein de partisans de hockey jaloux d'un océan à l'autre, là.
Puis, tu sais, je comprends
c'est
que...
C'est notre tour.
Si, mettons, le Canadien avait été éliminé, il n'y aurait pas le même engouement pour les sénateurs. Ouais. Donc, il y a peut-être un peu de jalousie là-dessus, mais c'est parce que l'historique du Canadien n'est franchement pas le même.
Exact. Exact. Puis, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu enfantin de voir qu'il y a des gens... Ben oui.
Oh.
Non, c'est plate. Fait que le centre Slush Poppy a laissé les gens des sénateurs de glace. Il manque un petit peu de jus, peut-être. Mm-hmm. C'est des choses qui arrivent. 14h38, fait que quand on vous disait qu'on était chanceux à Québec, là, ben on peut doublement le considérer.
On est chanceux, on est loin d'Ottawa.
Ouais. Quoi qu'il y a peut-être un... Il y a peut-être un... Jean-Jérôme Landry, président de la Sénateur Nation, qui crie victoire dans sa station de radio locale, que grand bien lui en fasse, mais il vient de casser le party de tout le monde. 14h38, on s'arrête, on vient. Bonjour. Il est 14h43. Comment ça va dans la circulation? 88-971-1021. Audrey? Il
commence à y avoir quelques petits ralentissements sur la capitale, direction est, hauteur Robert-Bourassa. Sinon, Henri IV-Sud, à la hauteur de Charest plutôt. Ça commence à ralentir aussi. Et 20 ouest, hauteur Taniata. Mais c'est vraiment des légers ralentissements, évidemment, s'il y a autre chose. 88-971-1021, texto.
Véro, tu nous as beaucoup parlé de l'histoire de Patrick Bruel dans les derniers jours parce que les témoignages s'additionnent.
Ouais.
Et c'est pas juste des témoignages de gens qui affirment avoir été agressés, mais là, il y a des gens qui font la lumière sur le fait que tout le monde savait et personne ne faisait rien. Je ne connais pas la chanteuse Nina Goerne. Est-ce
non,
que ça te dit quelque chose?
Non, c'est une fille qui a eu une certaine célébrité à un autre moment. Là.
Ben, elle est chanteuse pour un band qui s'appelle Cats on Tree, mm-hmm. OK? Et elle a fait un post Instagram en début de semaine où elle raconte qu'est-ce qui s'est passé avec Patrick Bruel en 2015. Elle dit « En 2015, nous chantions avec Patrick Bruel dans une émission de TV. On arrive tôt le matin pour les répétitions. » Et là, discrètement, un mot circule dans mon équipe, glissé à voix basse, mais très clairement. Interdiction formelle de laisser Nina seule avec lui. Donc, c'est des gens vraisemblablement de l'entourage de Patrick Bruel ou du plateau de télévision qui sont allés voir son équipe à elle pour y dire « Hey, laissez-le pas toute seule avec Bruel ».
Hey, c'est épouvantable.
C'est gros pareil. Hein? Ce réflexe de vigilance, c'est elle qui écrit ça sur son Instagram. Cette stratégie discrète pour éviter qu'une situation dérape en disait déjà tellement long en 2015.
Ça ressemble à ce qu'on avait entendu sur, en partie, le milieu de l'humour.
Oui.
Que, quand il y avait certains humoristes qui avaient des tendances un peu plus ratoureuses, que le mot se passait très rapidement. Reste pas tout seul avec cette personne-là. Range-toi pour pas être tout seul avec cette personne-là.
Fait que Nina Goerne partage son soutien inconditionnel aux victimes et elle dit merci à mon équipe pour la garde rapprochée. Je vous rappelle que c'est une anecdote qui en dit long, qui date de 2015. Ça fait 11 ans.
Les concerts de Bruel qui ont été remis indéfiniment du côté de Québec, Montréal. Je pense que ça n'a pas été touché encore. Puis il y a
la France
questions.
Non plus, hein?
Non, mais j'ai aimé la sortie du maire de Paris parce que lui avait été questionné un peu plus tôt cette semaine puis il dit « Moi, j'invite Patrick Bruel à faire une parenthèse dans sa carrière le temps que justice soit rendue. » Tu sais, en disant pas « Tu devrais annuler tes spectacles ou arrêter de te faire voir, mais tu sais, toi, tu pourrais prendre la décision de... »
Oui, mais je pense qu'à un certain moment donné, c'est au propriétaire de salle d'intervenir aussi.
Je comprends, mais le public
France...
va encore aller le voir.
Oui, mais c'est ça. Tu sais, la France a rétabli Bertrand Cantat. Oui.
Tu as tué une femme dans un contexte de violence conjugale.
Il a été capable de faire une tournée puis de remplir ses salles. Ça prend la complicité de gens qui sont les propriétaires de salles, qui eux autres vont se réfugier en disant « Ouais, mais là, nous autres, on a une demande, puis on va remplir, puis ainsi de suite. » C'est quand même à toi, à salle. Tu sais, s'il y a un rassemblement nazi puis que ça va remplir, t'es pas obligé de la prendre. Là.
C'est fou à quel point, quand c'est un artiste qu'on apprécie, on dirait qu'on...
On
perd nos repères. Ouais. Comme si on se reproche... de ne pas avoir vu quelque chose, fait qu'on préfère penser qu'il n'y a rien eu, tu sais.
Ouais.
Puis on est tous de même à différents degrés.
Puis tu sais, je comprends que c'est pas du tout du même ordre. Mais comment tu veux que je m'ostine avec quelqu'un qui me dit « Moi, la musique d'Éric Lapointe, elle m'a sauvé la vie puis ça me fait du bien d'aller le voir en spectacle. »
C'est carrément ça.
Je comprends que c'est pas la même affaire, pas en tout. Je sais pas, tu sais, Bertrand Cantat a tué une femme puis c'est un salopard.
Rien à voir.
Puis Patrick Bruel, ça s'enligne pour être un salopard en série aussi, là.
va voir.
Et je veux pas jouer le jeu des comparaisons, mais ça porte quand même à réflexion. Hey Véro, dans l'essentiel de l'actualité, en ce jeudi, on est le 21 mai.
On s'est rendu qu'à chaque mois, je pense que j'ai une nouvelle en vous disant un homme a été arrêté pour des allégations de terrorisme dans la région de Québec.
Mais oui!
C'est toutes des allégeances différentes, clairement. Là, c'est la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, qui a envoyé un communiqué plus tôt aujourd'hui en disant qu'ils étaient intervenus en arrêtant un Lévisien de 40 ans en lien avec ces allégations-là de terrorisme. C'est une enquête en matière de sécurité nationale qui a débuté en mars 2025 suite à un signalement qui aurait été effectué en ligne. C'est un homme qui aurait diffusé plusieurs publications sur TikTok en soutien au groupe État islamique. Puis là, demain, il va comparaître. Il risque d'y avoir des accusations.
Il voulait faire quoi, lui?
On le sait pas. Mais là, on dit que le corps policier l'a arrêté parce qu'ils avaient des motifs raisonnables de crainte qu'ils commettent des infractions en matière de terrorisme.
Ici ou ailleurs?
On n'a pas ces détails-là. Okay. On n'a pas d'informations. Comme je te dis, il n'y a toujours pas d'accusations qui ont été déposées.
C'est un gars qui publiait des affaires louches, puis on s'est dit, on ne prend pas de chance.
Ça, puis tu sais, quand même, la dénonciation remonte à mars 2025. Pour qu'on agisse en mai 2026, est-ce que ça s'est intensifié? Est-ce que leur enquête leur a permis de trouver d'autres informations? J'imagine que oui. Puis on indiquait aussi que l'opération policière visait à contraindre le suspect à cesser ses activités suspectes et à lui imposer un engagement de ne pas troubler l'ordre public en matière de terrorisme. Donc, on aura vraisemblablement plus de détails demain, j'imagine.
Mais là, es-tu détenu en attendant?
Bien, j'imagine que oui, parce qu'il comparaît demain.
OK.
Fait que ça, on va avoir plus d'infos à ce moment-là. Il y a aussi les accusations qui ont été déposées sur les trois ados de la région de Montréal qui seraient débarqués à Scott dans la nuit de mardi à mercredi pour kidnapper un individu.
Le goudron, les plumes, puis on les retourne à Montréal?
Accusation d'enlèvement, de séquestration et de voie de fait. Je vous rappelle que l'homme de 36 ans avait été retrouvé à 100 km de là, à Saint-Tite-des-Caps, ligoté dans une baignoire après avoir vraisemblablement été tabassé. C'est une commande qui aurait été faite par un autre groupe criminalisé, puis lui aurait changé d'allégeance, puis on voulait lui passer un message. Fait que c'est pour ça que ces trois flots-là de 17 ans se seraient présentés en bourse.
Ils vont-ils être accusés adultes?
Non, bien pas nécessairement. Non. En fait, selon... Tout va se faire dans la cour de la jeunesse, mais c'est quand on va arriver à donner une peine qu'à ce moment-là, peut-être qu'on peut décider de donner une peine pour les adultes.
Moi, il y a quelque chose qui m'agace là-dedans, puis c'est la même chose que dans les dossiers de prostitution particulièrement juvénile. C'est tout le temps un peu l'éternel dilemme. C'est t'accuses qui?
Right.
T'accuses le client en priorité, t'accuses la prostituée en priorité, t'accuses le proxénète. Et ces gens-là ont des proxénètes. Ces gens-là ont des types adultes, des jaunes, des couillards, des couillons, pardonnez-moi, qui se cachent, qui flashent leur argent, puis qui envoient des flots qui ne savent pas ce qu'ils font, faire n'importe quoi, n'importe comment, à leur place. Moi, je trouverais ça intéressant qu'on soit capable de monter à cet étage-là, à l'étage des adultes.
On l'a fait à Frampton.
Ouais.
Tu sais, l'événement dont on s'est parlé, puis il y a eu une nouvelle arrestation d'un jeune de 18 ans qui était vraisemblablement mineur au moment des faits. Il y a des gens... vraisemblablement, qui ont commandé ces gestes-là, qui ont été arrêtés, puisqu'on est rendu à quatre arrestations en l'espace de quelques mois seulement. Fait que, oui, on finit par se rendre, mais souvent, c'est des enquêtes qui sont plus longues parce que, je ne sais pas si vous avez entendu l'ancien policier, c'est Roger Ferland, matin, qui parlait en disant ils utilisent des plateformes qui ne sont pas des plateformes qu'on connaît nécessairement, qui font partie de notre quotidien. Dès qu'il y en a une qui est trop populaire, on trouve une autre plateforme, ils n'ont pas leur vrai nom, ils n'ont pas. Tu sais, c'est.
C'est dur à
C'est organisé et désorganisé, puis c'est cette désorganisation-là qui fait que les enquêtes sont tellement plus longues.
Puis moi, pour passer le message que ça se fait pas, mettons, débâtir deux clavicules à coups de masse, là, ben moi, tu serais jugé comme un adulte. Tu es capable de perpétrer des crimes de cette violence-là. Ouais.
C'est ça, mon point est un peu là. T'sais, malheureusement, ces jeunes-là, on est souvent capable de les accrocher en leur disant que parce qu'ils sont mineurs, ils vont pouvoir recommencer leur vie à zéro à 18 ans puis être une bonne personne s'ils veulent dans le futur. Là.
Ouais.
Comme l'impression que pour passer ton message, il faut que tu changes les règles éventuellement.
Là, de toute façon, c'est l'adolescence, c'est poche. Au lieu d'être d'un centre, t'sais, au lieu d'être en prison, tu vas être d'un centre jeunesse.
T'as quoi à perdre?
C'est ça.
Tu fais un coup de cash.
Oh, c'est terrible.
C'est effectivement dégueulasse. Il y a le service de police de la Ville de Québec qui a dévoilé son rapport annuel pour la dernière année un peu plus tôt aujourd'hui. Le nombre d'interventions policières a augmenté. Les raisons pour lesquelles on a dû intervenir sont différentes. Entre autres, les crimes comme tout ce qui est lié aux stupéfiants, lié aux meurtres, ça a diminué. C'est les problèmes sur la route qui ont augmenté. Entre autres, le nombre d'accidents mortels qui est presque le double versus l'année 2024. Les arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies qui ont connu une augmentation aussi au courant de la dernière année. Moins de constats d'infraction par des manquements du stationnement, mais une hausse sur ce qui touche la circulation et ce qui touche la vitesse. On a souligné aussi l'arrestation quand même de deux gros noms dans le domaine du crime, là, Dave Turmel, qui est toujours en Italie, et Mathieu Pelletier, qui lui avait été arrêté à Toronto, faisait partie des gens les plus recherchés. Puis on souligne que, tu sais, il y avait un nouveau poste dont on s'était parlé, là, de coordonnateur de recherche de fugitifs, puis on dirait que depuis qu'il est là, on est capable d'aller chercher du monde qu'on recherchait puis qui n'était pas visible dans la région de Québec parce qu'ils avaient foutu le camp. Les vols qualifiés ont connu une hausse, on s'en est rendu compte à lire les communiqués. Mm-hmm. Beaucoup de gens qui font du vol, qui font du recel, qui se retrouvent là-dedans. Les infractions à caractère sexuel aussi, qui ont connu des augmentations.
C'est toujours les mêmes cycles, hein, tristement parlant. Tout coûte plus cher.
Ouais,
on a de la misère à arriver. Tu vois la criminalité qui monte. Ouais. L'insatisfaction, ça fait monter la criminalité aussi. C'est une roue qui tourne pas de notre bord présentement, malheureusement.
C'est qui est dur à anticiper puis à contrôler. C'est surtout subi. Fait que c'est dans la suite des choses, dans les arrestations puis dans les enquêtes qu'on est capable d'agir. La Ville de Québec qui a envoyé un communiqué en lien avec le secteur du Stade Canac. On s'en était parlé la semaine dernière parce que, en fait, pas juste la semaine dernière, au début de la semaine, parce que le premier match des Capitales à domicile, c'est mardi prochain. Ça fait une couple de semaines que les gens des Capitales avaient comme fait « Youse! » parce que là, il y a une passerelle qui sera bientôt plus accessible, qui est celle d'Adrien Pouliot, qui est à la hauteur de l'usine de cigarettes, là, Rotman.
Bien, pour résumer, c'est qu'il y avait deux passerelles, puis il n'y
en
a plus.
En fait, il n'y en aura plus. Là, il en reste encore une temporairement, puis c'est un peu ce que la Ville explique à travers tout ça. Fait que dans le communiqué, on nous donne toutes les manières d'accéder au Stade Canac, fait que les espaces de stationnement. Dès le 26 mai, donc dès la semaine prochaine, là, il y aura environ 200 cases de stationnement supplémentaires qui vont être rendues disponibles dans la cour de l'ancienne centrale de police du parc Victoria, mais ce sera uniquement lors des soirs de match du côté du Stade Canac. On nous rappelle les places disponibles sur l'avenue Simon-Napoléon-Parent, puis sur Cardinal Maurice Roy, qui est possible de stationner sur le terrain vague dans le secteur de Pointe-aux-Lièvres, le service à vélo qui a été bonifié dans ce secteur-là. Et on nous indique aussi que d'autres interventions seront prévues d'ici l'automne afin d'améliorer la sécurité, entre autres le réaménagement de tout ce qui est cyclo-piéton dans ce coin-là. Et on attend d'avoir les échéanciers pour la démolition, entre autres. Puis il y a des discussions en cours avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour aménager une nouvelle traverse piétonne à l'axe de l'autoroute Laurentienne et de la rue de la Croix-Rouge en vue des travaux du projet Tramcité.
Moi, j'ai eu à faire démolir une maison. J'ai préparé ça pendant un an. J'ai démoli ma maison. Puis un coup que ma maison s'est démolie, là, je me suis fait « Hey! »
J'ai plus de maison.
J'ai plus de maison.
J'ai plus resté.
Faudrait bien que je me trouve une maison. Hein? Pourquoi on reproche pas à une ville de se comporter comme ça alors que n'importe quel humain, par instinct de survie, refuserait de se comporter comme la ville? Pendant un an, on vous dit qu'on va démolir votre maison. Il y a eu une inondation. Vous êtes en zone inondable. Il y a une partie du terrain qui est partie. Ça, c'est mon histoire. On va la prendre. Pendant un an, on m'a dit, il faut que tu fasses démolir ta maison. C'est quoi la première affaire que j'ai faite? J'ai trouvé un autre. Ça a été long, là, mais...
Trouve un plan B rapidement.
Ouais. Avant que la première masse rentre dans le premier mur, je peux vous garantir que je t'ai rendu ailleurs. Ça va de soi.
T'attendais pas d'avoir la date, là?
Là, tu sais qu'il y a une passerelle qui sera jamais réparée.
Mm-hmm.
Tu sais que l'autre passerelle, elle s'en va. T'avais un plan de boulevard urbain qui, semble-t-il, marche plus.
Mais plus dans les cartons.
Fait que là, c'est ça, là. Faut trouver quelque chose.
C'est vrai qu'il y a une portion qui appartient au transport, mais tout un autre bout que c'est la ville qui le gère.
Ben là, quand vous allez en mission économique à Détroit, c'est pour asseoir les principaux acteurs économiques puis jaser. On est-tu capable de faire ça dans notre cours?
Ce serait le fun, hein?
Ce serait le fun!
Les principaux acteurs d'un secteur où il va y avoir des travaux.
Peux-tu faire une mission économique à Québec?
Parce que... oui, ce serait pas pire, ça
fait une couple de fois qu'on parle de ça, que des dirigeants dans un même bureau ne voient pas les angles morts. C'est la même affaire pour une ville qui a des grands projets.
Imagine-toi la bombe, toi. On annonce que les trois prochaines missions économiques, c'est à Québec. Ouais, pas de frais de déplacement, le monde vient de nous voir et on essaie de régler des affaires pour le monde de Québec. C'est un mot juste de bon call.
Tu sais, hey, on s'enligne pour faire telle affaire. Y a-tu des éléments auxquels on n'a pas pensé?
Hein?
Ça se peut, là.
Ça
se peut arriver de tellement être persuadé qu'on fait bien les choses, de ne pas voir certains éléments, comme entre autres ça, qui a clairement pas été vu par la ville avant maintenant. Je termine avec ça parce que j'étais un peu sidérée du chiffre. Vous avez peut-être déjà regardé des documentaires sur l'ascension de l'Everest,
oui.
C'est quand même assez impressionnant, oui. C'est beaucoup de préparation, etc., etc. Mm-hmm. Il y a un record qui a été atteint hier.
Le plus grand nombre de personnes en une année qui ont monté l'Everest?
Non, en une journée.
En une journée?
275 alpinistes. En une seule journée. En passant par la face sud du sommet, qui est celle du côté du Népal. Face nord, la Chine avait bloqué ça il y a un certain temps déjà.
Okay.
Vous comprendrez que ça prend des permis pour monter l'Everest. Et financièrement, c'est payant pour le Népal. C'est une grosse activité touristique.
Est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est la saison des chutes de caca?
Non, c'est la saison. C'est après ça.
Mais c'est pas full dangereux?
Oui, c'est très dangereux, mais il y a quand même 275 personnes. C'est sur plusieurs jours, voire même semaines. Puis en plus, tu as la préparation qui vient avec. Il y a au moins 300 personnes qui sont mortes sur l'Everest depuis qu'on est capable de faire son ascension dans les années 50.
Les cadavres restent là, effectivement. Ouais. On peut les voir en montant.
Fait que là, c'était l'ouverture de la saison printanière qui s'est faite au mois d'avril. Pour la saison actuelle, on est rendu en frais de nombre de permis. 492 permis d'ascension de l'Everest, puis hier, c'était 275 alpinistes. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un line-up pour avoir ta photo au sommet de l'Everest, ben, avec le bon angle pour pas voir la file de monde.
Mais ça va plus loin que ça, c'est que tu es dans une file où tu es dépendant, alors que tu te bats pour ton air, de ce qui se passe en avant et de ce qui se passe en arrière. Ça a l'air d'être un cauchemar. Je vous recommande Kaizen, qui est le documentaire du YouTuber qui a monté l'Everest, qui s'était lancé ce défi-là. Je me donne un an pour être en forme puis monter l'Everest. Les images qu'il nous montre de son ascension, moi, ça m'a donné la claustrophobie assis dans mon salon, là. Parce que tu es dans une file, puis tu peux pas doubler, là. Je veux dire, la file est tout petite. T'as tes bonbonnes d'oxygène, tu rushes comme un malade pour garder ta respiration. Puis là, m'amener, ça arrête, puis tu sais pas pourquoi.
Faut que t'attends.
T'es comme dans le trafic, mais à pied, pas d'air.
Je comprends comme pas le défi.
Moi non plus.
Parce que monter l'Everest, c'est déjà, c'est ça le défi. Fait que pourquoi le faire en une journée quand tu mets littéralement ta vie en danger?
Ben, c'est pas que tu le fais en une journée.
C'est qu'il y a du roulement tous les jours.
Ouais.
Puis eux autres, c'est le moment d'arriver.
Je trouve ça complètement stupide.
Il y a tellement de monde qui le monte que le nombre d'arrivées au sommet en une journée est de 275.
Ça fait vraiment plus de sens.
Je pense que tu as quatre camps. OK, ça se fait en quatre étapes.
Moi, je pensais que les gens skippaient les étapes et que le monde peut monter ça d'une shot en 24 heures.
Parce que c'est ça, là. Tu peux arriver au troisième camp ou au quatrième camp puis te faire dire « Hey, la météo est pas bonne, tu pourras pas monter, tu redescends. » Ciao, bye, t'as manqué ton spot.
Ça fait vraiment plus de sens. Je trouvais ça complètement cinglé.
Mais il y a personne qui veut entendre parler des chutes à caca?
Ben, tu peux nous en parler?
Ben, ça va me faire plaisir, tabarnou, vu que vous me posez la question. Ben, c'est parce que maintenant, il y a des directives où tu dois amener tes petits sacs, puis tu descends tes petits caca toi-même. Maintenant, c'est obligé. Pourquoi c'est obligé, vous me demandez? Ben, parce que le monde a tellement chié en montant l'Everest que l'été, quand le soleil brille du bon bord, qu'est-ce qui arrive?
Ça fond.
C'est la saison des chutes à caca. Ça fait partie. Donc, tu montes l'Everest, tu rushes pour garder ta respiration puis ton cardio. T'es pogné entre un gars que tu connais pas puis un autre gars que tu connais pas. Des fois, ça arrête d'avancer pendant 45 minutes. T'as aucune idée pourquoi. Tu regardes à gauche, il y a le cadavre d'un alpiniste qui est là depuis 1934. Et à droite, t'as les chutes à caca.
C'est 60 jours, l'ascension de l'Everest.
Mettons que tu vas rapidement, là?
Non. Ben, en temps normal, tu peux pas le faire rapidement. Faut suivre le beat.
Les étapes.
Puis sur ce 60 jours-là, tu as 30 à 40 jours d'acclimatation à cause de l'altitude. Puis faut que tu aies atteint le sommet avant 14 heures l'après-midi parce qu'il faut que tu puisses redescendre au camp le plus près avant la tombée du jour parce que c'est dangereux. Fait qu'imaginez, sur la courte période sur laquelle le nombre d'alpinistes que je mentionnais est arrivé.
Là, je vous ai parlé de caca.
Ouais.
Je vous ai parlé de cadavres. Imaginez-vous la dombe de matériel.
Ah, parce qu'il y a des affaires qui restent derrière.
Les bonbonnes, puis ainsi de suite. Ça a l'air d'être le parcours le plus macabre que tu peux faire sur Terre.
Ça devait être tout au début, là.
Ouais. Mais ceux qui le font pour se trouver eux-mêmes, là...
faire le Kilimanjaro, aller faire autre chose.
je vais aller faire du yoga chez nous dans le bois. Je vais peut-être me rapprocher plus de moi-même qu'en regardant des cadavres et des chutes à caca.
On n'est peut-être pas le public cible non plus.
Peut-être pas. Je pense pas le devenir non plus. Ben,
pas l'impression que mal l'aide non plus.
Kaizen, c'est fascinant pour les gens qui l'ont pas vu. Puis vos kids le connaissent, le YouTuber. Il y a plein de belles réflexions à faire à partir de ça. C'est gratuit sur YouTube. D'ailleurs, le documentaire de très belles images. K-A-I-Z-E-N.
Tu vois, il y a deux Québécois qui sont en train de faire l'ascension. Il y en a un de 23 ans qui a réussi aujourd'hui, puis okay. L'autre pourrait le faire au courant des prochaines heures. Puis eux autres ont tout documenté ça. Puis je viens de voir des articles passés qui datent du début du mois de mai où ils se sont fait dire « Bon, bien, votre départ va être retardé. Il y a un bloc de glace dans une cascade où on doit passer, puis là, il faut attendre que ça fonde ou que ça disparaisse pour être capable de le faire. »
T'as pas 8 chemins qui mènent à Rome au sommet de l'Everest. T'en as rien qu'un, puis il faut que t'attendes s'il n'est pas disponible. Oui, c'est Inoxtag, le YouTuber, qui raconte son histoire dans le film Kaizen. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent les Québécois qui sont au sommet de l'Everest présentement. Si vous les connaissez, merci de leur partager ce message. Félicitations, mais ramassez vos affaires. Merci!